Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Doriac, activiste pour le climat, rédactrice en chef adjointe aux impacts de la revue papier You Made, dédiée aux vêtements comme un fait social total, et autrice d'ouvrages sur les textiles. Elle est aussi présidente et coordinatrice nationale pour la France de l'ONG Fashion Revolution, qui milite pour un changement positif mais radical dans l'industrie de la mode. Bonjour Catherine Doriac.
Bonjour Anne.
Je suis ravie de vous accueillir sur So Sweet Planet pour parler de votre livre, dont on va citer le titre tout de suite, Fashion Fake or Not, paru il y a quelques mois aux éditions Tana. Dans la collection donc Fake or Not, que je vais présenter tout de suite, avant d'entrer plus en détail ensuite dans votre sujet, je vais les présenter avec leurs propres mots pour que l'on comprenne de quoi nous allons parler. Donc Fake or Not, c'est quoi cette collection? Eh bien, Fake or Not scrute nos modes de consommation, donne une boîte à outils qui aiguise l'esprit critique et décrypte les enjeux environnementaux qui font débat. Énergie, alimentation, décroissance, climat, déchets. Fake or Not, comment ? Fake or Not donne la parole aux experts, aux chercheurs, aux scientifiques qui analysent et décodent chaque sujet en s'appuyant sur des données et des chiffres vérifiés. Et enfin, pourquoi ? Pour partager ce qu'on sait de l'état réel du monde, déconstruire les idées reçues et lutter contre les fake news. Une collection donc pour penser l'avenir de nos démocraties, agir à son échelle et s'engager pour un futur désirable. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelques mots déjà de cette collection publiée par les éditions Tana dans laquelle s'inscrit votre livre ?
Quand les éditions Tana et notamment Isabelle Brockmann, qui est la directrice de la collection, m'a contactée pour me proposer cet ouvrage, je me suis dit « Ah, mais parfait, on va pouvoir balayer les idées reçues sur l'industrie textile, on va pouvoir donner les bons chiffres. » Alors là, on a retravaillé, parce que en fait, les chiffres dans l'industrie textile, bon, je parle de mon livre, mais c'est pareil pour les autres sujets, les chiffres sont très fluctuants. On a des études de droite, de gauche qui sortent, qui arrivent sur le marché, alors plus ou moins tirés par les lobbies, etc., etc., notamment sur l'alimentation, on le sait, mais sur le textile, c'est pareil. Donc, moi, je me suis chargée évidemment de relire toutes les études dont j'avais la connaissance depuis 2017, notamment avec Hélène MacArthur et toutes ces études un peu plus anciennes, mais en allant jusqu'aux études parues. On a écrit le livre fin 2021. Fin 2021. Donc, il y a de nouvelles études qui étaient parues, notamment on s'est servi de l'ADEME, on s'est servi de ReFashion, qui est notre organisme de tri sélectif des tissus, linge de maison et chaussures. On s'est servi d'un rapport McKinsey sur la mode, sur l'état de la mode en 2021. Enfin, on a été vraiment chercher les dernières études. Ce qu'il faut souligner, Isabelle Brockmann fait un travail extraordinaire avec une équipe extraordinaire, notamment la conception graphique de Nathalie Redard, les illustrations de Sarah Fouquet. Les illustrations de cette collection, elles sont extraordinaires. Sarah Fouquet, elle a une fibre artistique, elle comprend tout de suite, elle comprend tout. On ne sait pas parler, elle a fait un portrait de moi, c'est exactement moi, enfin vraiment. Elle a compris tous les impacts de l'industrie textile sans qu'on se parle jamais. Donc elle avait lu les textes, j'imagine. Voilà la maquette de Lola Lully. Sont des livres qui sont accessibles à tout le monde, qui sont pensés pour la jeune génération, bien sûr, hein. Cette fameuse jeune génération habituée à TikTok, Instagram, qui zappe beaucoup, qui lit moins peut-être que nous autres. Donc voilà, ce sont des petits textes courts, mais qui balayent vraiment l'étendue des livres de cette collection. Voilà. Donc merci beaucoup aux éditions Tana de m'avoir permis de parler de tous ces impacts avec quelques solutions à la fin. Et longue vie à la collection Fake or Not qui ne va cesser de s'enrichir, je pense, dans les années qui viennent.
Oui, c'est vrai que moi j'ai trouvé le livre vraiment intéressant et pas ennuyeux à lire, parce que c'est toujours un peu l'écueil avec ce type de sujet, d'être dans des choses qui peuvent être vite rébarbatives. Et dans les mises en images, c'est pas toujours très concluant non plus dans les livres qui veulent rendre accessible. Et moi, il m'est arrivé d'en avoir entre les mains et de me dire, en fait, je crois qu'il n'y aurait pas d'image, j'arriverais mieux à comprendre qu'avec des camemberts, des tableaux et tout ça. Et quelquefois, ça, pour moi, ça rend le propos plus confus que juste de le lire, tellement là, on veut faire quelque chose de ludique. Et finalement, quelquefois, c'est plus, ça complexifie en fait la pensée ou l'idée de base. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment, en tout cas pour mon esprit, j'ai trouvé ça très, très efficace, très concluant.
Oui, parce que les illustrations sont très bien dosées.
Voilà, et puis c'est clair. Alors, pour rentrer dans les faits et dans votre vie un tout petit peu, parce qu'en fait, j'ai lu que vous aviez une grand-mère tailleur pour dames, et j'ai trouvé ça assez amusant de voir que la mode, le vêtement, avait l'air d'être présent dans votre vie depuis donc assez longtemps. Et je me demandais, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que moi je l'ai lu, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre parcours par rapport à la mode, par rapport à l'industrie textile, et en quoi ce parcours vous a-t-il mené à vous engager et jusqu'à ce livre ?
Alors, ça commence fort. Oui, moi j'ai grandi dans une famille donc de femmes qui cousaient. Hein. Mon arrière-grand-mère, bon, je l'ai connue jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Elle est décédée quand j'avais 12-13 ans. Mais donc, pendant toute mon enfance, elle m'a appris à broder. Elle était alsacienne, donc la broderie en Alsace, c'est très important. Elle m'a appris à broder, elle m'a appris à faire les vêtements de mes poupées. Ma grand-mère tricotait, mes deux grand-mères tricotaient, donc on a tricoté aussi ensemble. Oui. Donc tous ces savoir-faire étaient là. Ils étaient là depuis des générations en fait. Mais c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Les savoir-faire de couture, on les a dans notre ADN. Donc, mais on les a oubliés.
Oui, moi je les ai bien oubliés. Hein,
en une génération et demie. Alors moi je les ai pas oubliés, mais je pratique moins. Mais par exemple, moi j'ai pas transmis à ma fille. Pourquoi ? On ne sait pas. Et voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un appauvrissement en fait de ces savoir-faire manuels qui sont un appauvrissement général hein, de tous les savoir-faire manuels. On essaie de redonner un peu aux gens à travers des ateliers, par exemple. Fashion Revolution fait beaucoup d'ateliers sur la réparation. Mais on essaie de redonner aux gens cette créativité de la main. Parce que rien ne peut se faire. Nous, sapiens, c'est quoi ? On est donc des hommes, des femmes, sapiens. C'est quoi ? C'est l'esprit, le cœur, la main. Ça, je le dis toujours, c'est hyper important. L'esprit, le cœur, la main doivent être reliés pour qu'on soit complet. Alors, ça paraît un peu brumeux comme ça.
Ah ben non, justement, c'est très concret, je trouve.
C'est très important de rappeler ça aux gens, qu'on ne peut pas être tout technologie, on ne peut pas être tout manuel. On a besoin aujourd'hui, en tant qu'être moderne, contemporain, de ces deux aspects. Et ces deux aspects, ils sont reliés. Et le cœur est important, parce que quand on fait les choses avec le cœur, on fait les choses en harmonie. Donc, retrouver l'harmonie. Bon, voilà. Alors, mon parcours, et je vous remercie hein, pour cette question, mon parcours, il est très, très… il est un peu… Il est très long, hein, maintenant. J'ai, J'ai 65 ans aujourd'hui, donc ça fait 35 ans que je travaille dans la mode, mais je n'étais pas du tout destinée à travailler dans la mode. J'ai commencé par faire des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Je me destinais à une carrière d'archéologue, donc scientifique, puisque l'archéologie, c'est scientifique, avec des recherches sur les civilisations précolombiennes. Et pourquoi je me suis retrouvée dans la mode ? Alors là, c'est vraiment une bifurcation, c'est le destin. C'est mon arrière-grand-mère qui a sûrement tiré quelques fils de là-haut en me disant « Non, non, ma fille, reste avec nous. » Le jour où je devais partir, enfin, il s'est avéré qu'au moment du doctorat, au moment de pré-doctorat, on devait partir avec l'école de Paris au Guatemala pour faire des fouilles au Guatemala. Et il y a eu une révolution. C'était au début des années 80. Il y a eu une révolution dans la jungle avec des problématiques dangereuses. Donc, l'école de Paris a fermé au Guatemala et notre professeur nous a dit « Bon, c'est pas grave, c'est dommage, mais on va pas les fouiller. Vous allez continuer votre doctorat à Paris. Mm-hmm. » Bon, c'est pas la même chose. Hein.
Oui, c'est moins excitant, mais…
Voilà. Et donc, doctorat, ok. J'ai commencé à travailler un petit peu parallèlement dans l'édition. J'étais dans une maison d'édition et on m'a proposé à un moment donné de m'occuper des journées jeunes créateurs qui étaient organisées par la revue Autrement et le journal Le Monde avec le ministère de la Culture 84-85. Il y a eu deux sessions où Jacques Lang a décidé de mettre en avant la jeune création. Et on m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de prendre en charge les défilés de mode ? Alors, oui, ok, un challenge, ok.
Donc j'ai pris en charge… Mais par rapport au fait que vous aviez travaillé dans l'édition ?
Oui, parce que je travaillais aux éditions Autrement, à la communication. Et donc, on avait besoin de quelqu'un qui prenne en charge des défilés de mode. Bon, c'était des gens de mon âge, on avait une vingtaine d'années. J'ai rencontré tous ces créateurs. On a mis en place les défilés, comme on a pu, dans un théâtre qui s'appelait le Théâtre à République. Et ça a été un succès phénoménal. Alors que moi, je n'y connaissais que dalle. Je n'y connaissais rien à la mode. Et donc, à la suite de ça, ces créateurs, qui sont devenus des amis, m'ont dit « Bon, pourquoi tu ne t'occuperais pas de nous auprès des journalistes ?» J'ai dit « Ok, pourquoi pas, j'ai un peu de temps, je peux faire ça comme ça. » Et puis, ça aussi, ça a été un grand succès. Et j'ai monté un bureau de presse de mode pour des créateurs émergents et je n'en suis plus jamais partie. En fait, j'ai arrêté mes études. Voilà. En me disant, je les reprendrai plus tard. Bon. Mais on ne reprend pas. Enfin, voilà. Donc, depuis 85-86, pendant 15 ans, j'ai été attachée de presse pour des jeunes créateurs émergents. Et puis voilà. Et après, la vie a continué. En 2003, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, maintenant, la problématique des années 2003, c'était les débuts de la fast fashion. Oui. La période de désindustrialisation de la France. Depuis la fin des années 90, début 2000 et donc 2003, je me suis dit « Ok, maintenant il va falloir prendre la plume et défendre ces gens-là autrement. » Donc l'arrivée des blogs, premier blog, deuxième blog, j'ai monté plusieurs médias comme ça, qui étaient des médias émergents à l'époque. Hein. J'ai rencontré Anne-Sophie Novel donc, pour Écolo Info et de fil en aiguille, je suis devenue journaliste. Voilà.
D'accord. Et Écolo Info, on peut savoir ce qui vous sensibilise à ce moment-là. Là, on est dans la mode et puis là, on voit arriver la partie environnement, écologie.
Ah la partie environnement, oui, bien sûr. Alors, les années 90, ça a été des années de lutte contre toute la toxicité qu'on trouvait dans l'alimentation, d'abord, dans la beauté. C'était les prémices, hein. On ne parlait pas de ça avant. Donc, les pesticides, et moi, j'étais dans la mode. Donc, j'étais sensible à l'alimentation. Je fais toujours le rapport entre les deux. Je pense que textile et alimentation, c'est hyper important de faire le rapport pour que les gens comprennent dans quel monde on vit et la force des lobbies.
Et puis, il y a des liens, en fait, à la source par rapport à la terre.
Le coton, par exemple.
Tout ça, on va en
absolument,
parler un petit peu.
Absolument. Oui. Donc, pourquoi Écolo Info? Écolo Info, parce que c'était un des premiers sites français qui s'intéressait aux problèmes de climat, qui s'intéressait aux problèmes d'écologie. Et on était une quinzaine de rédacteurs quand même. Hein, tous
quand même.
Oui, oui. On était des green bloggers, les premiers de l'époque.
Oui, oui, oui.
Et donc voilà, donc chacun ensuite, après, est parti vaquer à ses occupations. En 2016, le site s'est arrêté, mais on a été pendant 10 ans quand même un des plus gros sites d'information écologique en France. Oui. Bon, ça c'est oublié maintenant, hein, ça va vite. Hein. Y a d'autres sites aujourd'hui qui font très bien leur travail. Donc voilà, donc maintenant je me retrouve, maintenant je suis toujours journaliste, je suis auteur, je m'occupe d'une ONG, je m'occupe du bureau français avec une équipe de bénévoles, on est tous bénévoles, hein, c'est notre, oui. C'est pas toujours facile, mais au moins on est libre.
Oui, c'est ça.
Donc, ça veut dire une double ration de travail quotidien. Mais Fashion Revolution, c'est très complémentaire avec tout mon parcours, puisque on s'occupe de justice sociale et de justice environnementale. Oui. Donc, pour les droits humains, bien sûr, mais aussi pour tout ce qui est production des matières, avec nos hashtags Who made my clothes? Qui a fabriqué mes vêtements? En référence au Rana Plaza 2013, dont on fête
on
commémore le 10e anniversaire de l'effondrement cette année, et What's in my clothes, qu'y a-t-il dans mes vêtements?
Alors, en quelques mots, parce que ensuite on va faire plus de mots, mais de quoi parle ce livre pour celles et ceux qui nous écoutent et pour leur donner une idée? Maintenant, je pense qu'ils ont déjà un peu une idée du sujet, mais en quelques mots, en 2-3 phrases, comment vous nous le présenteriez?
Alors, ce livre, il est là pour faire un constat, une image authentée, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi l'industrie textile, quels sont les impacts, quels sont les chiffres à retenir, les chiffres qui sont effarants. Hein. Les premières pages commencent par 24 heures de fabrication dans le monde, tous les livres de la collection commence pareil. 24 heures de fabrication dans le monde, 24 heures de déchets textiles dans le monde. Alors, on a des chiffres. Chaque année, plus de 4 millions de tonnes de vêtements sont jetées en Europe. On reviendra là-dessus. Hein. 1400 tonnes de microparticules de plastique sont rejetées dans les océans suite au lavage des matières synthétiques. Enfin, bon, c'est des chiffres hallucinants. Et voilà, on a essayé de les mettre en 3 pages pour faire un constat. Ensuite, le livre va raconter l'histoire des textiles pour que les gens comprennent de quoi on parle.
L'évolution.
Ouais, quand on parle de textile, depuis l'âge des cavernes jusqu'à nos jours. Et puis, on rentre dans le vif du sujet avec les rois du shopping. Comment en est-on arrivé à ce constat aujourd'hui que la mode, c'est avant tout l'obsolescence programmée du textile qui pousse à acheter de nouvelles fringues en permanence. Je lis, c'est dans le livre, c'est un gros, oui, oui. Un gros pavé. Et le fait aussi que nous achetons en permanence, bien sûr, parce qu'on est envahi de publicité, envahi de désir comme ça. On a l'impression que l'achat bonheur, l'achat c'est le bonheur. Donc ça c'est complètement faux. Hein, mais bon, on peut en reparler.
Le marketing, la publicité, c'est leur raison d'être de nous faire croire ça. Oui.
Voilà. Et puis qu'en fait, on se retrouve avec des placards pleins et on ne porte que 30% de ce qu'on a chez nous. Ça, c'est un chiffre qui est valable pour tout le monde. Hein. Qu'on s'habille avec des vêtements de luxe ou qu'on s'habille avec des vêtements de fast fashion, on a trop de choses et on ne porte pas tout. Et évidemment, bon, c'est du gaspillage.
Alors, pourquoi parler de l'industrie de la mode ? Quel est son impact sur les grands enjeux actuels, par exemple en termes de pollution et de réchauffement climatique, hein, puisque c'est, on en parle beaucoup dans, vous en parlez beaucoup dans ce livre. Donc, elle rejette à elle seule plus de gaz à effet de serre que les transports aériens et maritimes additionnés. Donc, c'est vrai que c'est quand même important d'en prendre conscience. 1400 tonnes de microparticules de plastique sont rejetées dans les océans suite au lavage des matières synthétiques. Ça, on en avait parlé dans un podcast avec Romain Troublé.
Ah oui.
Romain Troublé de la Fondation Tara, puisqu'ils étudient de très près avec leur mission.
Mais oui, parce que c'est. En fait, le problème de ces microparticules, c'est. Ça pollue les écosystèmes marins. C'est des microparticules qui émanent du polyester et des matières artificielles. Les matières naturelles émettent aussi des microparticules au moment du lavage, mais bon, c'est moins dommageable. Elles se défont plus facilement. Le problème des microparticules de plastique, c'est qu'elles détruisent les écosystèmes, donc la faune et la flore des océans,
oui.
Mais qu'elles se retrouvent ensuite dans nos assiettes via les poissons que l'on consomme. On a trouvé par exemple ces microparticules de plastique dans des fœtus humains. Donc
oui.
C'est très très grave en fait. Et ça remonte jusqu'à nos cerveaux. Bon, on va pas rentrer dans le détail parce que
non, mais c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui c'est constaté et
ouais.
C'est peut-être anxiogène, ben oui. Mais justement il faut réagir et il faut absolument arriver à limiter,
en fait. Le problème, c'est la production des fibres synthétiques et artificielles. Le polyester, donc qui est un plastique issu du pétrole, représente 65% de tous les textiles mondiaux produits. Alors, on dit pour la mode, mais non. Soyons honnêtes, remettons les choses à leur place. Le polyester ne sert pas uniquement à la mode, il peut servir aussi dans la décoration, il peut servir dans l'automobile, pour les sièges, il peut servir pour les tissus géothermiques qu'on met sur les sols pour se débarrasser des adventices, hein. Je préfère les appeler adventices que mauvaises herbes, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, en fait. Les herbes sont là pour des raisons particulières. Donc, ce polyester, il est partout autour de nous. Il est partout.
Oui.
Il est dans les lieux publics, dans les restaurants, dans les hôtels. On est envahi, quoi. C'est une matière qui est délétère. C'est un plastique. C'est un des pires plastiques. Alors pourquoi il est très utilisé dans la mode ? Parce qu'il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Ça coûte pas très cher de fabriquer du polyester. C'est fabriqué en Asie très loin, dans plusieurs pays, bon, sans donner de destination particulière, mais entre la Chine, la Corée du Sud, tous ces pays à haute technologie textile. Donc il ne coûte pas cher. Donc il permet de produire beaucoup de vêtements à très bas coût.
Oui. Vous rappelez aussi que chaque année, la pollution marine due au textile équivaut à 50 milliards de bouteilles en plastique. Alors, quand on sait que ça se cumule avec les vraies bouteilles en plastique et tous les autres résidus plastiques, dans les océans et les sacs. Et bon. La responsabilité en fait, de l'industrie textile dans ces dégâts environnementaux, si j'ai bien compris, on la trouve en fait à toutes les étapes de la production.
Oui, bien sûr.
On s'aperçoit que les matières, que ce soit pour récolter du coton ou d'autres, si on est dans l'agriculture intensive avec les intrants chimiques, les engrais, les pesticides et tout ça, on
les
a déjà des dégâts.
Ouais.
Voilà. Et puis, si on est sur le polyester ou ces matières-là, bon, bah là, c'est le pétrole, l'extraction fossile et compagnie. Oui. Et ensuite, à chaque étape, c'est incroyable les dégâts environnementaux au moment des teintures, au moment de...
Absolument.
Du transport.
Beaucoup d'énergie entre chaque étape de la chaîne textile. Il y a, on parle toujours du rang 1 qui est l'étape de fabrication, qui est le premier rang du donneur d'ordre qui fait fabriquer ses vêtements. Mais avant, en allant plus loin, en allant jusqu'au rang 5, donc qui est la production des fibres, évidemment, on remonte la chaîne, hein. Production des fibres, filature, tissage et tricotage, teinture, ennoblissement, Ensuite, on ramène. Alors, ça, tout ça, ça se fait dans des pays différents, bien sûr, hein, chaque fois. Hein. Parfois, en Chine, ils ont une chaîne assez complète, mais donc entre chaque étape, il y a du transport. Le coton, il peut être cultivé en Ouzbékistan, filé en Chine ou en Inde, ensuite transformé en Turquie. Les vêtements peuvent être fabriqués au Bangladesh et tout ça, ça fait le tour de la planète 2-3 fois avant d'arriver sur les plateformes de distribution ici et dans les boutiques et ensuite dans nos armoires. Donc tout ça, évidemment, c'est des gaz à effet de serre à toutes les étapes énormes et qui sont peut-être pas vraiment utiles. on a très envie, on parle beaucoup de réindustrialiser la France. Là, on a une chaîne, on a une filière qui est la filière du lin qui vient de réindustrialiser des filatures donc pour pouvoir avoir une production 100% européenne. En tout cas française, il y a 4 filatures de lin qui viennent de se réinstaller en France et ça c'est formidable. Mais bon, après le lin c'est 0,4% des fibres naturelles mondiales. Ça reste quand même une part infime de la production de fibres. Mais c'est une très belle matière, évidemment.
Oui. On peut espérer que ça se développe parce qu'on en récolte aussi en France. Il y a des champs de lin.
La France est le premier producteur mondial de lin. Voilà. Entre la Normandie et les Hauts-de-France, le lin européen, ce qu'on appelle lin européen, est cultivé dans une bande qui va de Caen à Amsterdam. Donc la France, Normandie, Hauts-de-France, la Belgique et les Pays-Bas. Avec une petite production de lin bio sur des terres bio, donc avec des agriculteurs qui sont passés en bio et qui essaient de cultiver du lin sur des terrains. Le lin, c'est une bonne matière, c'est une matière qui est bonne pour l'environnement, donc bon. Mais le lin bio, c'est les sols sont évidemment bio, quoi.
Oui.
Et le retour du chanvre aussi, dont on peut parler.
Oui, chanvre alors textile. On va en parler de ces nouvelles matières. Mais alors, dans les nouvelles matières qui ne sont pas naturelles, donc comme vous l'avez rappelé, 3/4 des matières, je cite votre livre, hein, 3/4 des matières utilisées par l'industrie textile sont en polyester. Donc, ce qui veut dire que nos vêtements sont constitués à 70% de pétrole. Leur temps de décomposition est donc beaucoup plus long. Une robe en polyester, c'est 200 ans.
Ouais.
C'est tout ça, ça voyage, donc on vient de le dire, de plusieurs milliers de kilomètres, 20 000 kilomètres en moyenne, avant d'arriver dans nos placards, selon la Fondation Hélène MacArthur. Donc, les nouvelles matières qui posent problème sont surtout les nouvelles matières synthétiques, en fait.
Oui, parce qu'on dit, alors j'ai plus les chiffres en tête malheureusement, mais on dit que d'ici 2030, ça sera encore plus. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience des citoyens sur le fait que le polyester, c'est pas vraiment une matière bonne ni pour notre santé, ni pour notre environnement. Donc, on voit des solutions qui arrivent avec du réemploi de tissus, de stocks dormants, avec des filières de la laine, par exemple, qui reviennent. Parce que la laine, faut pas oublier que la laine, c'était une des premières matières avec le lin jusqu'au 19e siècle. Oui. On n'était pas habillés en produits chimiques. Hein. On s'habillait en lin, en coton, bien sûr. Le coton, c'est toute une histoire. Hein. Lié à l'esclavage depuis…
Oui.
Mais, coton, laine et lin. Mais la laine, il y a encore 10 ans, 15 ans, ça représentait 10% des fibres mondiales. Aujourd'hui, c'est plus que 1%. Évidemment, il y a des petites filières de laine qui reviennent en France, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'industrie de la laine, c'est essentiellement l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec des conditions d'élevage, évidemment, d'énormes troupeaux, des conditions d'élevage qui ne sont pas soutenables, ni pour les troupeaux, ni pour la planète. Et sans parler du Cachemire en Mongolie. Du Cachemire en Mongolie.
Ah oui. Qui n'est pas non plus une...
Mais non, parce que le Cachemire, quand les chèvres sont élevées par les nomades tout va bien, ils se déplacent, donc ils ne détruisent pas les sols, parce que les chèvres, elles broutent plus ou moins, elles arrachent. Aujourd'hui, on voit des élevages intensifs de Cachemire qui sont évidemment menés par la Chine, hein, puisque la transformation, les trois quarts du Cachemire mondial est transformé en Chine aujourd'hui. Alors, c'est pas du tout un Cachemire de bonne qualité, hein, c'est les Cachemires qu'on trouve à des prix assez alors, évidemment accessible, mais c'est quand on voit la qualité de ces pulls, voilà, c'est pas le beau Cachemire qu'on connaît et qui va durer toute une vie, voire plus, qu'on pourra transmettre de génération en génération. Moi, j'ai des Cachemires qui ont appartenu à mes grands-parents, qui sont encore tout à fait portables. Hein.
Mais cette différence de qualité, elle vient de quoi, en fait?
Ah ben,
de ce Cachemire.
L'étape de transformation, c'est-à-dire c'est des cachemires avec très peu de fils qui vont boulocher, qui vont s'user beaucoup plus vite, qui n'ont pas cette main moelleuse du très beau cachemire à 8-10 fils qu'on peut connaître dans les marques de luxe, évidemment, mais on peut trouver en seconde main des pièces. On cherche bien si on connaît les matières.
Et alors, comment sommes-nous passés de ces fibres naturelles qui étaient meilleures pour la santé, pour l'environnement, aux fibres plastiques, au polyester, à toutes ces fibres synthétiques? Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé de façon si fracassante et avec tous les dégâts dont nous venons de parler? Est-ce que c'est uniquement le prix de revient, le fait
bien
que cette...
Sûr. Le prix, l'industrie chimique, fin du 19e siècle, l'industrie chimique sont plein, on fait des découvertes fabuleuses, par exemple la viscose, on appelait ça rayonne aussi, ça a été inventé pour remplacer la soie, qui était très cher. Donc, pour la fin du 19e, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le début de la consommation, alors de masse, sans aller jusqu'à ce terme, c'était pas une consommation de masse, mais pour offrir des vêtements aux gens qui avaient moins de moyens que les élites. Donc, on a cherché à remplacer la soie. Évidemment, c'est l'industrie chimique qui a trouvé tout ça et qui a introduit à ce moment-là les teintures chimiques aussi.
Et oui.
C'est l'histoire du capitalisme. On peut parler comme ça peut-être. L'histoire du capitalisme.
Oui. Employons les mots.
Oui, employons les mots de page.
Parce qu'en fait, les dégâts sont de tous les podcasts on en revient finalement toujours là. Donc, je pense qu'il est temps de dire les choses en employant les mots et voilà, en parlant des vraies causes.
C'est les grands propriétaires, les grands fabricants, les grands propriétaires d'usines qui se sont dit, ok, bon, ça avait commencé avec le coton un siècle et demi auparavant, avec la première révolution industrielle, ça a continué avec les matières synthétiques et artificielles, on remplace le coton, on remplace la laine, l'arrivée du banylon. Pendant la guerre, il n'y a plus de soie, donc les Américains inventent le banylon, qui était au départ indestructible. Mais je ne me souviens plus du nom de l'inventeur du banylon. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas si j'en parle dans mon film.
Je sais que vous parlez de Dupont de Nemours.
Dupont de Nemours, c'est la grosse firme américaine qui travaillait sur l'industrie, qui ont inventé toutes les catastrophes chimiques que l'on connaît aujourd'hui. Mais le nylon, le banylon. La première matière synthétique apparue aux États-Unis au début des années 30 avec le nylon de Dupont de Nemours conçu pour remplacer les bas de soie. Alors évidemment, le bas nylon, il était conçu pour être indestructible et ils se sont vite rendus compte que si c'est indestructible, ils n'allaient pas en vendre.
Il faut mettre en place un peu d'obsolescence programmée.
On a demandé, voilà, exactement, le deuxième mot qui fâche. l'obsolescence programmée. Et donc voilà, bon, on en arrive aujourd'hui à 150 milliards de pièces de vêtements produites chaque année pour 8 milliards d'êtres humains dont la moitié ne s'habille pas en vêtements neufs et dont la moitié de l'autre moitié s'habille de toute façon en seconde main. Donc bon, c'est une gabégie totale.
Oui. Et donc, dans l'histoire de cet emballement, vous parlez donc de la consommation de masse qui est née aux États-Unis dans les années 20. Et puis, vous parlez un peu plus tard des acheteuses compulsives de fringues, les victimes de la mode, qui apparaissent dans les années 80. Et entre 2000 et 2021, la production de vêtements a doublé. Alors, on attribue ça à quoi, cette consommation débridée qui s'emballe? C'est les incitations à consommer, c'est l'influence de certains réseaux sociaux, c'est le prix qui est devenu tellement ridicule que les gens ont l'impression que finalement, bon ben, pourquoi se priver puisqu'on ne connaît pas les conséquences de ce prix.
Oui, on ne connaît pas les conséquences du prix sur les personnes qui fabriquent nos vêtements. Ça, c'est un premier point. Quand on sait qu'un t-shirt à 3 euros, c'est le prix d'un café. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable? Pour un t-shirt, il faut quand même produire la matière, la filer, la teindre. Il y a 7-8 étapes. Et ensuite, il y a quand même un être humain derrière la machine. Parce que ça, on n'a pas trouvé de robot qui remplace l'être humain derrière la machine pour assembler le vêtement. Donc, c'est toujours un être humain qui paye les pots cassés. Quand on parle de salaire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la plupart des pays, maintenant, on a un salaire minimum imposé par l'OIT, mais l'Organisation internationale du travail, en fonction des coûts de la vie dans chaque pays, mais que ce salaire minimum représente absolument un tiers d'un salaire vital. Alors, quelle est la différence entre un salaire minimum et un salaire vital ? Le salaire vital permet de se nourrir, de se loger, de s'habiller, d'envoyer ses enfants à l'école et de s'occuper de sa famille, de se soigner, de soigner toute la famille, mais aussi d'économiser en fin de mois une petite somme en cas de coup dur de la vie. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Parce que moi, j'aime bien aussi toujours être un peu… un peu juste dans ces histoires de salaire vital. Le SMIG en France, par exemple, n'est pas un salaire vital parce qu'à la fin du mois, on tire un peu le diable par la queue et un SMICard ou une SMICarde, employons les mots encore une fois, n'arrive pas à boucler sa fin de mois. Donc, sûrement pas à
économiser.
À économiser quoi que ce soit en cas de coup dur. Mais alors, on est en France, on a des lois sociales, on a une sécurité sociale, on a tout ça. Dans ces pays-là, en Asie, très loin, il n'y a pas tout ça. Ça veut dire que si on tombe malade, on ne va pas travailler. Et si on ne va pas travailler, on n'est pas payé.
Et si on tombe malade, on doit payer soi-même ses soins.
Absolument.
Ses médicaments, son hôpital, si on doit être hospitalisé.
Absolument. Et il n'y a pas de parachute. Il n'y a rien, oui. Ouais. Donc, ce salaire vital, il doit être absolument revu. Au Bangladesh, par exemple, le salaire minimum, c'est 85 euros. On sait qu'il devrait être à 350, 380 euros, c'est-à-dire bien plus que trois fois plus, c'est presque quatre fois et demi plus. Sans embrouiller les gens avec des chiffres, dans le livre, il y a un graphe qui montre tous les salaires. Nous, cette année, on a lancé une initiative citoyenne européenne avec d'autres ONG qui s'appelle Good Clothes, Fair Pay et qu'on demande aux citoyens de signer. En fait, une initiative citoyenne européenne, c'est un outil de démocratie participative.
Ça veut dire Good Clothes, je vais mettre le lien ensuite.
Good Clothes, Fair Pay. Donc, c'est porté par 7 pays en Europe, donc les 7 pays de Fashion Revolution en Europe, avec Clean Clothes Campaign, avec Fair Trade International, avec d'autres ONG. Et on a besoin d'un million de signatures. Il nous reste 3 mois pour obtenir ce million. On est à 20% enfin, c'est très compliqué d'expliquer aux gens à quoi ça sert. Emparez-vous de cette campagne, donnez-nous votre signature pour que nous puissions aller nous asseoir à la table de négociation, à la Commission européenne qui est en train de voter des lois de régulation sur la chaîne textile, mais où, franchement, les problématiques sociales ne sont pas mises en lumière. Donc voilà, on a des propositions à faire et cette initiative citoyenne européenne, elle a été adoubée par la Commission européenne. Ils nous ont donné le droit de la lancer. C'est vraiment comme un vote. Hein. Donc voilà, tous les citoyens européens peuvent le voter. Il faut avoir un passeport et être en âge de voter. Ça dépend des pays. Parfois, c'est 16 ans, parfois, c'est 18 ans. En France, c'est 18 ans. Mais faites-la signer autour de vous aussi, parce que là, il nous reste 3 mois, enfin, jusqu'en juillet, jusqu'au 19 juillet. Et c'est assez poussif, quand même. Hein. Et je crois que les gens n'ont pas compris, en fait, à quoi servait cette initiative citoyenne européenne. Donc voilà, j'espère avoir été assez claire sur le sujet.
Alors, il y a un chapitre, là, on l'a évoqué tout à l'heure, dont le nom est « Le coton tue ». Alors, je vais lire deux petits extraits qui sont vraiment parlants. Page 52. « Au Pendjab, ce sont 100 000 litres d'eau contaminés par des métaux lourds qui sont rejetés par les usines de teinture tous les jours. » 100 000 litres d'eau contaminée, je répète parce qu'il faut que ça rentre bien, par des métaux lourds qui sont rejetés par les usines de teinture tous les jours. Et l'utilisation, donc je continue de citer, l'utilisation de produits chimiques est constante à chaque étape de la transformation du coton. Teinture, lavage et assouplissement requièrent l'utilisation de cadmium, de chrome, de mercure, de cuivre et de plomb, de métaux lourds aussi toxiques que longs à disparaître de l'environnement une fois qu'ils y sont installés. Ces produits dangereux sont interdits en Europe, mais la réglementation européenne ne s'applique pas dans la plupart des pays producteurs. Là-bas, la contamination de l'environnement se poursuit donc en toute impunité, évacuée par ruissellement. On rejette dans l'environnement des produits chimiques résiduels comme des éthoxylates de nonylphénol, NPE, qui fixent les colorants, des phtalates pour les éléments en plastique, les boutons, les boucles de ceinture, du formaldéhyde. Cancérigène pour assouplir les vêtements sans repassage. Ça fait des années que l'on entend parler quand même de tout ça. Aujourd'hui, il y a aussi des choses positives, le coton bio, la laine, on en a parlé, le lin, le chanvre, vous parlez du bananatex. Ces efforts, ces nouvelles façons de produire plus respectueuse de l'environnement aujourd'hui, est-ce que c'est franchement encourageant ou franchement pas du tout, pas encore assez encourageant, pas assez encore répandu?
Alors, pour citer je ne sais plus qui, j'en suis désolée, ce n'est pas le voyage qui compte, c'est le chemin. je crois que c'est, c'est peut-être le Dalai Lama, je ne sais plus. En tout cas, oui, le chemin est long pour revenir en arrière sur ces productions toxiques. Il y a évidemment le lin, c'est une des premières matières utilisées par l'humanité avec la laine. Hein. Alors c'est pas nouveau. Il y a eu un renouveau ces 10-15 dernières années de cette matière hein, qui est revenue dans nos placards, parfois avec des réticences parce que. Les gens disent le lin ça se froisse. Moi je rajoute avec noblesse, ça se froisse avec noblesse. le lin a une main particulière qui en fait tout son charme. Et l'été c'est la meilleure matière à porter, mais pas simplement l'été, l'hiver aussi, puisque l'hiver, les vêtements en lin sont thermorégulateurs. Le lin c'est une matière naturelle hein, qui laisse respirer, qui laisse passer la transpiration, qui laisse l'air passer entre notre corps et l'extérieur. Donc évidemment, quand on a commencé à dormir dans des draps en lin, on ne quitte plus les draps en lin. Alors, il y a des questions de prix. Bon, maintenant, on en trouve à des prix raisonnables, mais les draps de lin de nos grands-mères, ils sont toujours dans les armoires des maisons de famille.
Hein. Si on achète un vêtement Si on achète un vêtement en lin ou des draps en lin, est-ce que le simple fait que ce soit en lin peut nous donner bonne conscience, ou est-ce qu'on peut acheter quelque chose en lin qui présente d'autres problèmes, c'est-à-dire que peut-être justement qu'il a été confectionné par des enfants ou par avec des salaires très bas, ou c'est...
Le seul petit souci avec le lin, c'est que jusqu'à il y a quelques années, enfin, c'est pas un souci, hein, c'est aussi une façon de faire du commerce international. La transformation de 60 à 70% de notre production européenne est transformée en Chine. Donc, culture théiage, le théiage, c'est l'action mécanique de transformer la fibre végétale en fibre qui pourrait être filée ensuite. Bon, ça part en Chine et en Inde. Un peu en Inde, mais beaucoup en Chine. Évidemment, et ça revient ensuite ici. Ça revient sous forme de fil ou ça revient sous forme de textile. Donc, de textile tissé ou tricoté.
D'accord.
Mais aujourd'hui, on a une production qui se réinstalle donc à proximité. Donc, on va peut-être se dire que dans l'avenir, on aura des lins complètement européens. En tout cas, peut-être complètement français, mais encore aux étapes de la filature, on fait des mélanges entre les divers provenances de divers pays et diverses années pour obtenir un fil toujours de la même qualité. Ça, c'est important de le savoir parce que on entend beaucoup des jeunes marques qui disent du champ à votre placard, c'est un peu l'histoire du champ à l'assiette, du champ à votre placard, votre t-shirt est 100% français. Ça me paraît encore un peu donc au niveau de la filature, même si la filature se réimplante, ils vont quand même continuer à faire des mélanges entre la France, les Pays-Bas et la Belgique pour avoir une qualité de fil toujours identique, toujours pareil, toujours optimale. Mais bon, ça veut dire que on a recommencé à réfléchir sur la mondialisation, la délocalisation, et ça c'est important. Maintenant, ça va pas se faire en un jour. Hein. Il faut ces histoires de filature et d'industrialisation, ça demande des savoir-faire, ça demande de la formation, ça demande de trouver des gens qui vont revenir dans les usines. Comment intéresser les jeunes générations à ces sujets-là? Retourner à l'usine, c'est encore un peu... Bon, on va voir. C'est en devenir. Mais ça nous donne un peu d'espoir quand même sur le fait que, localement, on peut recommencer à produire des textiles qui seront meilleurs pour l'environnement, meilleurs pour la santé, meilleurs pour la planète, meilleurs pour les ouvriers aussi. Voilà. Mais c'est le chemin est long. Le chemin est long.
Oui. Et par rapport au coton aussi, donc vous mentionnez que la monoculture généralisée du coton OGM provoque une artificialisation massive des sols qui détruit la biodiversité. Parce que ça aussi, c'est quand même un lien de causalité qui est important à souligner vu la vulnérabilité de notre pauvre biodiversité aujourd'hui, là où on en est.
Les sols sont morts partout. En France, les sols sont morts. Si on met plus de d'engrais, on n'aura plus de culture. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et dans les pays producteurs de coton, effectivement, c'est de la monoculture. Il y a aussi le problème des OGM. C'est le problème des OGM. Ça veut dire que les graines ne sont pas réutilisables d'une culture à l'autre. Et que ça laisse les populations d'agriculteurs sous le joug des entreprises chimiques. Et ça, c'est hyper important de le rappeler.
Ils sont obligés d'acheter toute la chaîne qui va avec, c'est-à-dire les engrais, les pesticides.
Les graines jusqu'au...
Complètement ligotées. Oui.
Absolument. Avec les problèmes de santé, hein, puisque on sait très bien que tous ces pesticides et tous ces produits chimiques provoquent des cancers. Avec les problèmes d'endettement, parce que tout ça coûte très cher. Quand un cultivateur cultivait son coton, il gardait des graines pour la culture suivante. Et puis, ça se nourrissait d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. Là, c'est plus le cas. Il faut racheter en permanence. Et dans ces pays, évidemment, acheter, c'est de l'argent. Les cours du coton ne sont pas toujours au beau fixe. Il y a un marché international qui est, on connaît, délétère. Hein. C'est pareil pour l'alimentation. Il ne faut pas se faire de soucis à ce niveau-là. Hein. Le profit. Mais tout ça, c'est une boucle infernale, en fait. C'est une boucle infernale dans laquelle on ne peut pas sortir. Mais il y a quand même des solutions de mise en place de coopératives, de labels comme celui de Max Avelard avec leur label textile pour le coton. Qui permettent, bah déjà qui n'est pas un coton qui n'est pas OGM, alors même si des pesticides qui sont autorisés dans ce label, ça permet quand même aux communautés de se mettre ensemble pour et ça leur permet surtout d'avoir un prix du coton toujours le même. Donc de pouvoir D'accord. prévoir, parce que la précarité, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Quand on ne peut pas prévoir, quand on ne sait pas à quel prix sera achetée la récolte, on ne peut pas se dire ah bah tiens, on va avoir ça l'année prochaine, on va pouvoir construire une école ou on va pouvoir construire un puits ou on va. Enfin donc ce label Max Avelard textile pour le coton, il permet à ces gens-là aussi d'avoir un coût du coton, un prix du coton stabilisé et de pouvoir utiliser l'argent pour leurs besoins locaux sur place.
Alors, page 58-59, il y a un petit chapitre bien intéressant aussi qui s'intitule « Qui a fabriqué ta veste ?» Et là, donc, on lit « Les chaînes d'approvisionnement de l'industrie textile sont très opaques » et vous écrivez que des millions de travailleuses restent invisibles, ce qui exacerbe leur vulnérabilité. Pourtant, une date a marqué l'histoire de l'industrie textile, et d'ailleurs, moi, au tout début de Sous-Suite Planète, c'était une des premières interviews qui était en vidéo à l'époque. J'avais fait une interview d'une jeune femme de l'ONG Peuple Solidaire, puisque c'était juste après cet événement, cette date qui a marqué l'histoire de l'industrie textile et qui a suscité une prise de conscience, donc le 24 avril 2013, date de l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh. Quelques mots de cet événement tragique dont on célèbre tristement les 10 ans.
Ouais, alors c'est la pire catastrophe de l'industrie textile depuis la première révolution industrielle au nombre de victimes. Mmh. Ce qui s'est passé aurait pu être évité. Une quinzaine de jours avant l'effondrement de ce bâtiment de 7 étages qui contenait des ateliers de production de machines à coudre, d'ouvrières parce que 80% des ouvriers textiles sont des femmes, des fissures
qui fournissent nos grandes marques, enfin nos marques,
oui,
ici qu'on trouve partout,
qui fournissent de la fast fashion mais aussi du luxe, hein, faut pas se mettre les doigts dans les yeux. Donc des fissures sont apparues dans les murs et les fissures, le bâtiment bougeait en fait, et les fissures sont agrandies de jour en jour. Et la veille de l'effondrement, les ouvriers ont dit « Non mais nous, on ne vient plus bosser, c'est pas possible, il se passe un truc. Donc, tous les commerces du rez-de-chaussée, il y avait des banques, des boutiques, ont renvoyé leurs salariés. Mais les propriétaires des usines de confection ont interdit aux ouvriers de s'en aller, sous peine de ne pas être payés, etc. Donc, ils sont revenus travailler, ils les ont enfermés. Et le bâtiment s'est effondré sur lui-même. 1138 morts, 2500 blessés. On a trouvé des étiquettes de grandes marques internationales dans les décombres. Ça créé un tollé général et c'est de cet événement que Fashion Révolution est né en fait. C'est né d'un mouvement, c'est né de deux designers éthiques anglaises, Orsola De Castro, Carrie Summers, qui se sont téléphonés, qui ont dit non mais on peut pas laisser faire ça et qui ont mis le hashtag Who Made My Clothes, qui a fabriqué mes vêtements, sur Twitter. Et c'est parti comme une traînée de poudre. Ça a été repris. Qui a fabriqué mes vêtements, c'est devenu notre hashtag emblématique qui est relié bien sûr à la justice sociale. Qui sont ces gens qui ont fabriqué nos vêtements et a-t-on le droit de mourir pour la mode? Donc ça, c'est notre slogan de base. Évidemment, bien sûr, ça a été un raz-de-marée dans toute l'industrie, une prise de conscience. Il faut toujours des catastrophes hein, pour que les gens se rendent compte. On est vraiment des animaux.
Oui.
Il faut nous sidérer pour qu'on prenne conscience des choses. C'est affreux, mais c'est comme ça. Donc,
et encore, il faut réussir à garder la sidération sur le, au moins le moyen exact. Terme pour que les choses bougent, parce qu'on passe tout de suite à autre chose.
Souvent. Alors là, là quand même, ça a été le Rana Plaza. Bon, alors donc, l'année suivante, bah, le Fashion Revolution s'est constitué en collectif international. C'est devenu une ONG depuis. Avec une Fashion Revolution Week tous les ans autour de la date du 24 avril. Donc, on va bientôt fêter, là. Enfin, fêter.
Oui.
C'est compliqué.
Commémorer.
Et donc, ça c'est pour rappeler tous les ans, quand même, cet événement triste et déplorable. Et pour qu'on n'oublie pas, en fait. Qu'on n'oublie pas. Bon, après, l'ONG, elle a d'autres chevaux de bataille, notamment sur la transparence, avec la publication tous les ans de l'index de transparence, qui est une photographie de 250 marques du luxe à la grande distribution sur leur déclaration RSE. Bon, ça fait partie du travail du plaidoyer, de politique de l'association. Mais notre premier…
Et ça, les citoyens peuvent le trouver,
c'est gratuit.
C'est bilan sur le site.
Sur le site.
Sur le site.
Fashionrevolution.org. Et le prochain va sortir au mois de juin 2023. Donc, tous les ans, au mois de juin, on publie cette étude qui fait quand même une centaine de pages, hein, qui n'est pas une petite étude. Et qui est très attendu par les marques, d'ailleurs, pour voir leurs progrès, qui ne sont pas vraiment… comment dire, qui restent assez faibles, hein, quand même, depuis la première parution de cet index de transparence en 2017. Il n'y a pas beaucoup de progrès, même s'il y en a. Bon, il y a beaucoup de greenwashing aussi.
Mais
ça, c'est un autre mot.
C'est ça que je trouve étonnant, parce qu'au moment de l'effondrement du Rana Plaza, ça a été tellement médiatisé, on a vu des collectifs se monter de tous bords, et puis on a aussi pu suivre qu'il y avait eu quand même un impact sur des lois qui étaient passées, qui exigeaient plus de traçabilité, parce qu'on se souvient que certaines grandes marques à l'époque avaient essayé de se déresponsabiliser en disant « oui, mais nous, bon, on a des sous-traitants, ça se passe là-bas, on ne sait pas trop. »
C'est voilà. Bien le problème.
Donc, et aujourd'hui, on en est où ?
Alors, en 2015, il y a eu les premiers accords Bangladesh. Donc ça, c'est pas vraiment une loi, c'est un accord volontaire que les marques signaient pour garantir la protection des bâtiments contre les incendies, contre les effondrements, contre les problèmes de structure, en fait, qui a été reconduit, qui a été en 2015 pour une durée de 3 ans, donc reconduit en 2018, mais malheureusement, toutes les marques n'ont pas signé, donc il y a encore des demandes de Clean Clothes Campaign, par exemple, et de nous aussi, mais bon, Clean Clothes, ils sont plus importants au niveau du plaidoyer auprès des marques, plus connues, plus anciens, qui demandent à ce que, effectivement, ces accords soient signés par toutes les marques, en fait. C'est, vous avez
c'est
très
un
bien,
engagement.
Mais oui, c'est un engagement à faire attention.
Mais ce n'est pas contraignant.
Non. Et c'est volontaire.
Ah oui, c'est toujours là où ça se joue. Les problèmes dans l'environnement, c'est
pas,
pareil. Hein.
C'est
oui.
pas une loi obligatoire. C'est voilà, on est une marque, on veut bien faire, on signe ses accords. Ça rassure peut-être ses clients, je ne sais pas. En tout cas, ces accords, ils existent et ils sont encore en cours. Hein, donc, il ne faut pas oublier.
Oui.
Ensuite, il y a eu les accords, l'accord Pakistan entre la France et le Pakistan pour. Pareil, hein, essayer d'assurer une certaine sécurité. En France, on a eu la loi sur le devoir de vigilance en 2017, qui a été portée par Dominique Potier à l'Assemblée nationale. La loi sur le devoir de vigilance qui est cette année réétudiée à la Commission européenne pour un élargissement à l'Europe, qui devrait permettre, alors qui est encore en cours de signature, en cours de délibération, qui devrait permettre d'obliger les entreprises qui importent sur le sol européen justement à avoir ce devoir de vigilance envers leurs fournisseurs. Il y a des tas de lois, il y a eu des progrès hein, depuis le Rana Plaza, plus ou moins liés, bien sûr, la prise en compte de la RSE par les marques. La RSE, ça existe depuis longtemps. c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, on ne peut plus ne pas avoir un département RSE. Alors, qu'est-ce qui s'y passe?
Donnez-nous le RSE, il faut être précis.
Oui, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est la divulgation de leur… c'est déjà leur travail, leur chemin personnel en tant qu'entreprise vers plus de social, plus d'environnemental, dans la production des objets qu'ils mettent sur le marché. On n'a jamais vu autant de greenwashing depuis l'arrivée de ces nouveaux intérêts au cœur des marques. Je ne veux pas faire le diable et l'avocat du diable. Chacun est sur son chemin, comme je disais au début de cet entretien. Mais aujourd'hui, on a aussi la France est quand même leader sur les lois. Sur les lois de changement, de transition écologique, en tout cas de l'industrie textile, avec la loi AGEC, par exemple. Tout ça est en progrès.
Bon, c'est bien de voir aussi le verre à moitié plein, parce que
oui.
C'est vrai que pour la prise de conscience et la sensibilisation, il faut parler du verre à moitié vide. Mais moi, j'aime bien qu'on parle aussi du verre à moitié plein, parce qu'il faut aussi quand même noter que ça vaut le coup de se battre, de s'engager, de soutenir ceux qui s'engagent, parce qu'on arrive à quand même des résultats. Et c'est pour ça qu'il faut quand même en parler, les mentionner, dire que ça vaut le coup.
Ouais, des résultats restreints quand même, ne nous mettons pas de voile sur les yeux, de voile pudique sur les yeux. Il y a des solutions, bien sûr. Il y a des nouveaux business models qui arrivent, de l'upcycling, la réutilisation des stocks dormants, toutes ces jeunes marques qui veulent bien faire dès le départ avec l'éco-conception, le cycle de vie du vêtement, la mode circulaire, etc., etc. Tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est que ces jeunes marques qui arrivent, ce sont encore des petites marques. Qui se trouve confronté à la réponse du client, oui, mais c'est beaucoup plus cher, je n'ai pas les moyens. Alors, le consommateur veut bien faire, le consommateur, dans les dernières études qu'on a pu lire, 70% des gens se disent prêts à faire un geste pour transformer leur façon d'acheter, mais au final, tout le monde va chez Shein et chez Primark. Tout le monde non, mais beaucoup. Oui. Donc, la prise de conscience est là, ok, mais dans les actes et dans le porte-monnaie, dans les actes…
Il y a encore des mal à suivre.
Ouais. Ouais.
Mais je voulais revenir justement, parce que page 68, vous parlez de la deuxième main, les vêtements, quand on achète d'occasion, et vous dites « ou l'illusion de la vertu ». Mais je voulais vous demander, parce que je n'ai pas compris, parce qu'en fait, page 88, il y a Mustaf, comment utiliser Vinted. Alors, est-ce qu'il y a le bon et le mauvais côté de ces plateformes de vente de seconde main, ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Ce que je peux vous dire, c'est que la seconde main, c'est un objet qui est déjà produit, donc qui aura un impact quasiment pas nul, parce que rien n'a pas… tout ce qu'on fabrique et tout ce qu'on touche, ça a un impact, quoi qu'il arrive. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on achète à outrance pour revendre tout de suite sur un site de seconde main de la fast fashion, c'est complètement contre-productif. En revanche, la mode vintage, la belle mode vintage, ça peut être une solution dans le sens où ça va être des beaux produits, dans de belles matières, qu'on va avoir plaisir à chiner, à dénicher. Moi, je n'achète pas sur ces plateformes, mais j'y vais de temps en temps pour voir ce qui s'y passe et qu'est-ce qui se vend. En fait, Vinted, il faut l'utiliser comme un outil de curateur, comme de la recherche pointue. Il faut connaître un peu l'histoire de la mode, il faut avoir des créateurs préférés, et on trouve des merveilles, très peu chères, des marques de luxe très peu chères. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire rentrer chez soi, porter sur soi, si on a envie que le vêtement soit une pièce de consommation brutale, Et je mâche mes mots, hein. Consommation brutale dans le sens où je prends, je jette. Bon, ça, c'est... Non. Par contre, je choisis. Et c'est en ce sens que je parle de curation. Je choisis, je collectionne, je choisis un vêtement parce qu'il représente quelque chose et qu'il va me permettre de me présenter au monde d'une façon respectueuse. Je respecte le vêtement, je me respecte moi-même, je respecte autrui. Et donc voilà, une question de respect. Mais moi, ça me semble tellement important, quoi. Important de la même façon de ce qu'on met dans notre assiette. Est-ce qu'on est boulimique quand on mange ou est-ce qu'on est soucieux de ce qu'on met dans son corps ? Enfin, c'est pareil pour un vêtement, c'est la même chose.
Oui.
Du respect et du plaisir.
Oui. Et peut-être quelques mots sur les décharges sauvages, parce qu'on a parlé beaucoup de ce qui se passe avant que le vêtement arrive jusqu'à nous, mais il y a aussi ce qui se passe après. Donc, les décharges sauvages du désert d'Atacama.
Alors, le désert d'Atacama, c'est au Chili. Donc là, ce n'est pas nos vêtements à nous, Européens, qui s'y trouvent rejetés. C'est plutôt tout ce qui se passe aux États-Unis qui va au Chili. Nous, nos vêtements, ils partent en Afrique. Au Ghana, au Kenya, et sûrement dans d'autres pays. Hein, ça a été très médiatisé. Ces trois centres géographiques ont été très médiatisés par des tas de documentaires et beaucoup en parlent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, c'est une catastrophe environnementale très très grave puisque dans ces décharges on ne trouve quasiment que des, alors pas que, mais beaucoup de polyester. Et comme on a dit tout à l'heure, une robe légère en polyester, mais 200 ans à se détruire à l'air libre. Là, c'est des montagnes et des montagnes de vêtements qui ont été produits, vite achetés, vite jetés, alors que nous avons des filières de tri et de recyclage qui essaient de se mettre en place, enfin, qui sont déjà en place, mais... qui essaie de se mettre en place. Ce qui se passe, c'est que dans ces filières de tri, beaucoup de vêtements sont renvoyés dans ces pays d'Afrique sous forme de ballots, inondent les marchés là-bas et finalement ne servent pas grand-chose, détruisent plutôt l'industrie textile des pays, enfin l'industrie, la petite industrie hein, de ces pays-là. Parce que les trois quarts de ces vêtements ne sont pas adaptés à ces climats et à ce que les marchands recherchent quand ils achètent un ballot. Il faut savoir qu'en Afrique, sur les marchés de seconde main, chaque boutique est spécialisée dans un genre de vêtements. Donc, que ce soit telle boutique les jeans, telle boutique les chemises blanches, telle boutique les robes, voilà, comme ça, telle boutique les enfants. Et quand on achète un ballot, on l'achète à l'aveugle. On achète un ballot qui fait... je ne sais pas moi combien ça fait un ballot de vêtements, 100 kilos, on va peut-être trouver trois pièces qui correspondent. Alors, après, il y a les histoires de troc entre marchands. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui ne les intéresse pas finissent sur ces gisements à ciel ouvert. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable de rejeter nos déchets? Alors, c'est pas que pour les vêtements, hein. Il y a aussi tous les produits.
Oui, les ordinateurs, les téléphones portables. Exactement.
Tout ça, c'est de la pollution. Alors, ça alimente un petit marché là-bas, mais l'Afrique n'est pas la poubelle de l'Europe.
Eh oui.
Il y a un autre gros mot qu'on n'a pas encore employé dans cette émission, c'est le gaspillage. La surproduction, le gaspillage. Qu'est-ce qui nous pousse à surproduire ? Alors, les marques, on comprend, hein, c'est l'appât du gain. Et nous, à surconsommer, ben, c'est les injonctions. Et à gaspiller, ben, c'est notre civilisation, la course folle vers la nouveauté. Et le petit moment de plaisir qui dure quoi ? 5 secondes, 10 secondes, allez, une demi-journée.
Oui, ben c'est cette excitation de l'avidité, en fait. Il y a une avidité qui est excitée par tout ce dont on a parlé tout à l'heure, la publicité, comment on nous fait croire que on va être plus heureux, cet article est indispensable, nous est indispensable, ou l'attrait de la nouveauté.
La course folle des tendances, les injonctions.
Alors, après tous ces constats, le livre offre heureusement des propositions avec le chapitre « Alors, on fait comment ?» Quelles sont les pistes les plus porteuses selon vous? Parce qu'on a parlé un petit peu des nouvelles matières. Il y a les plateformes éthiques, il y a des applications qui donnent l'impact de vêtements de plus de 450 marques sur l'environnement, l'humain, la santé, les animaux. Il y a quand même des moyens que vous répertoriez à la fin de ce livre qui permettent de un petit peu mieux consommer quand même et peut-être du coup inciter à un petit peu mieux produire aussi.
Oui, je pense que la première étape pour une meilleure consommation, en tout cas de la mode, c'est de faire le tri de ce qu'on a déjà, de regarder ce qu'on porte, ce qu'on ne porte pas, pourquoi on ne le porte plus. Est-ce que ce vêtement a besoin d'être réparé? Très important la réparation, on l'a déjà évoqué. La réparation, c'est facile. Soit on le fait soi-même, soit on le donne à une boutique près de chez soi. Il y en a de plus en plus et de toute façon, il y en a dans tous les quartiers. Une fois qu'on a fait le tri de ses vêtements, alors il y a des pièces qu'on va avoir, peut-être qui ne nous vont plus, mais qu'on va avoir envie de garder parce qu'on est attaché. Il ne faut pas oublier le rapport émotionnel aux vêtements, c'est très important. Et d'où tous les systèmes de réparation qui reviennent aujourd'hui. Mais une fois qu'on a fait ce tri, eh ben, il faut savoir que ces vêtements, on peut les échanger déjà avec des amis, des collègues, organiser des swaps, des vide dressings, soit dans sa rue, soit avec ses amis, ses collègues au lycée, dans l'entreprise, etc. etc. Et là, il n'y a plus de question d'argent. Hein. On arrive avec des vêtements qu'on ne porte plus. On repart avec des vêtements qui nous ont plu sur le portant, etc. Bon, ça permet un moment convivial. Il ne faut jamais oublier la joie hein, dans tout ça. Le bonheur, le plaisir d'être ensemble, d'échanger autour de ses vêtements et ou chaussures, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les vêtements. Ensuite, ce qui reste, ce qu'on ne va plus mettre, il ne faut jamais le mettre dans les poubelles. Il y a des filières de tri, il y aura toujours un moyen d'utiliser cette matière. Soit en revente directe, si le vêtement est en bon état, soit en recyclage, on parle de recyclage, bon, c'est une filière qui est en devenir, mais donnons moins de la matière à cette filière. Et ensuite, ce qui ne pourra pas être réutilisé, eh ben, on va en faire du chiffon, on va en faire de l'isolation pour les bâtiments. Et au bout de la course de ces vêtements qu'on a triés et donnés dans les filières de tri, on pourra les utiliser pour créer de l'énergie pour les villes qui utilisent ces vêtements dans leur incinérateur. Et au milieu de tout ça, il y a les vêtements qui sont encore en bon état, mais pas pour le marché français de la seconde main, et donc ils partent en Afrique. Voilà. Ça, c'est un peu le cycle de la filière du tri. Donc, ne jamais mettre, même un vêtement très, très abîmé, à partir du moment où il est propre et sec, il vaut mieux le mettre dans un bac de tri qu'on trouve dans les rues que dans la poubelle verte.
D'accord. Je voulais aussi parler d'un petit point qui quand même nous laisse tous un peu perplexes, enfin beaucoup d'entre nous, je crois, parce que lorsqu'on n'est pas expert soi-même, donc ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, on a tendance à se référer au label, à faire confiance à ceux qui se prétendent plus experts que nous et qui nous proposent de faire un peu le tri pour nous. Mais vous alertez sur le fait qu'il y a de bons labels et des truands. Et vous dressez une liste des labels fiables. Donc, je le mentionne aussi, hein, on peut trouver la liste de ces labels avec vous détaillez un petit peu ce qu'ils font. Mais c'est quand même difficile, je trouve, pour les consommateurs d'acheter responsable aujourd'hui.
Oui, parce que il y a pléthore de labels, hein, il en est tous les jours, oui. Qui sont plus ou moins honnêtes. C'est pour ça qu'on dit les bons labels et les truands. Bon, c'était en référence au film oui. Des années 70. C'est un petit clin d'œil. Mais bien sûr, par exemple, on a. Je veux attirer l'attention des auditeurs sur ce label BCI, Better Cotton Initiative, qui est un label qui soi-disant et qui est utilisé par des grandes marques hein, comme étant un meilleur coton, etc. Mais c'est pas du tout un meilleur coton. C'est un coton qui détruit la possibilité d'avoir du coton bio, qui empêche d'avoir du coton bio. Et c'est un label qui utilise des pesticides et qui utilise la même chaîne de transformation que le coton conventionnel. Donc le BCI, non, c'est pas une bonne idée. Par contre, un label comme GOTS ou Ecotex va assurer la non-toxicité ou les bonnes pratiques sociales dans les usines. Mais c'est un label qui reste cher parce que c'est un label qui va être payé par les marques tous les ans. Et qui ne peut pas être reconduit. Enfin bref, donc ça reste. Les petites marques n'ont pas forcément les moyens, même si elles elles utilisent des bonnes matières, elles n'ont pas forcément le moyen d'être labellisées.
Oui, c'est important de le dire aussi parce que quelquefois on croit que si une marque n'a pas le label, c'est qu'elle ne le mérite pas. Alors qu'en fait, souvent il faut payer derrière et quelquefois les marques n'ont pas simplement les moyens d'investir, c'est pas leur priorité parce qu'ils arrivent juste à survivre ou sont en début de parcours ou il y a eu des coups durs.
C'est une des raisons aussi du coup de cette mode plus responsable, plus éthique. Souvent ces coûts-là sont répercutés évidemment sur le consommateur et ce qui fait que les produits sont plus chers aussi. Ce sera les seules raisons, mais parce qu'évidemment, une marque plus éthique, elle va aussi mettre moins d'argent dans la publicité, plus d'argent dans la fabrication, plus d'argent dans le plus local, donc avec des coûts européens qui sont plus chers que des coûts asiatiques. Mais oui, bien sûr, le coût est réparti sur l'ensemble du produit.
Oui. Et vous citez aussi à la fin du livre et vous donnez des listes de sites qui, eux, ont fait le travail et du coup proposent des marques. Donc on peut trouver des t-shirts, des pulls, proposent des vêtements qui viennent de marques qui répondent à des critères assez exigeants en termes justement de respect de l'environnement, des droits humains.
Absolument. Il y a plusieurs exemples. Il y a des marketplaces, des sites de e-commerce qui proposent comme un magasin propose une offre par saison. Oui. Eux ont fait le travail de présélection des marques avec très scrupuleusement. Il y a aussi une marque, un label de confiance, Slow We Are, qui labellise des marques françaises donc de façon volontaire avec plus de 250 indicateurs questions pour leur octroyer ce label. Ça, c'est aussi des pistes pour trouver des marques.
Oui.
Et ils ont aussi un magazine... un magazine où il parle de tous les problèmes de la chaîne textile de l'industrie et les problèmes et les solutions parce qu'ils sont très
positifs. Un magazine papier là
vous non un dire. Magazine en ligne sur le en site ligne. Même oui.
Ah, oui,
il y a toute une partie magazine où ils reviennent sur plusieurs sujets.
Donc avant de terminer, j'avais envie de vous demander, parce que vous êtes engagé donc de différentes manières par différents angles pour participer à faire évoluer cette production textile vers des attitudes plus responsable, plus éthique, plus écologique. Que vous inspire aujourd'hui votre parcours pour cette cause ? Quel bilan faites-vous aujourd'hui ? Est-ce qu'il est teinté plutôt d'optimisme ou de découragement ? Quel bilan ?
Moi, je dis toujours que je suis pessimiste-optimiste. Alors, c'est un peu banal de dire ça, parce que pessimiste parce que la situation, elle est catastrophique à tout point de vue. Je parle du climat, mais je parle aussi des démocraties. Sans vouloir entrer dans l'aspect politique, mais quand même, on est dans une période très troublée. Les crises financières qui arrivent, l'inflation à tout va, les problèmes de guerre dans le monde, enfin bref. Donc ça, c'est pas très encourageant. Ensuite, ben, optimiste, bien sûr, puisque ben, il faut se lever tous les matins pour continuer le combat. Et ça, j'aime bien terminer les entretiens là-dessus, parce que, évidemment, bien sûr, ben, en bonne révolutionnaire, moi, je suis toujours là, droit dans mes bottes, et je continue le combat. Et on n'est pas seul, et on va finir par y arriver, mais ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps.
Bon, mais on peut espérer que plus nous serons nombreuses, nombreux, et plus la sensibilisation va se diffuser, les envies de s'engager vont se diffuser.
Exactement, exactement. Il faut engager les jeunes. Là. Il faut, moi, j'aime bien aller dans les collèges, les lycées, les écoles de mode, les écoles de commerce pour leur parler de tous ces
très
sujets.
Bien.
Oui, parce que c'est important. Ils sont conscients, mais bon, voilà. Et c'est pas forcément. Les plus jeunes sont peut-être les plus évolués, donc on a un espoir avec la génération qui arrive.
Oui, et puis c'est bien aussi qu'ils puissent entendre lire un livre comme celui-ci, justement, ou avoir des contenus qui ne sont pas juste des petites pastilles de 30 secondes ou 2 minutes sur Instagram, TikTok et compagnie, parce que là, ça donne toujours des visions très partielles et limitées, en fait. Et là, on a besoin de visions d'ensemble, parce qu'on voit bien que tout est lié. Et pour ça, il faut aussi pouvoir écouter des personnes qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps et qui ne vont pas juste donner des petits faits sensationnels qui incitent à se révolter, mais pas avoir une compréhension plus globale des problèmes. Et ça, je pense que là, maintenant, ça devient urgent d'avoir une compréhension un peu plus globale.
On est beaucoup, sur ces sujets-là. Donc,
voilà. Je voulais vous demander avant de terminer, le livre donc, est sorti il y a presque un an, je crois. Est-ce que des choses ont déjà évolué depuis que vous souhaiteriez mettre à jour, signaler
Depuis avril 2022, alors la loi AGEC hein, qui a été un peu enrichie, qui va s'appliquer à d'autres secteurs que le vêtement. Il y a l'affichage environnemental qui est en discussion à la Commission européenne, qui n'est pas, pour le moment, qui est toujours en discussion, mais qui n'est pas forcément l'idéal, comme on peut voir le Nutri-Score qui n'est pas l'idéal en alimentation. La loi sur le devoir de vigilance dont on a parlé, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des lois aux États-Unis aussi sur la toxicité. Audrey Millet qui a produit son rapport pour la Commission européenne sur la toxicité dans les vêtements là en février. Là, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. on sait, c'est très grave. Voilà. Au niveau de la démocratie, quand on voit ce qui se passe au niveau des gouvernements, il n'y a pas beaucoup d'espoir hein, pour l'instant. À voir. On est dans l'expectative. Hein. On est dans la rage aussi, on est dans la rage de voir que les choses n'avancent pas alors que un peu de régulation.
Alors que tous les dégâts avancent, oui.
Oui, mais le problème, c'est toujours la même chose, on est encore régi par le capitalisme. Donc, tant qu'on restera sous cette coupe-là et qu'on ne partagera pas plus, qu'on ne mettra pas plus en place des choses pour les communs, ça restera. Et puis cette sacro-sainte croissance. La croissance, c'est complètement dépassé. Et décroissance ne veut pas dire ne pas croître, mais c'est croître différemment. Croître dans le partage et croître dans peut-être un peu plus le mot m'échappe, le mot de la fin m'échappe, de générosité.
Mais oui, mais ça me semble tout à fait approprié.
On a besoin de nouveaux récits autour de tous ces sujets, oui, bien sûr. Et de relire ceux qui nous ont précédés sur ces sujets-là, évidemment, bien sûr. Bon, ça, c'est... Lisez, il en restera toujours quelque chose.
Voilà. Donc, je rappelle le titre de ce livre, Fashion, Fake or Not. C'est chez Tana Édition, donc par vous-même, Catherine Doriac. Je vais donc mettre le lien,
Brockman.
Comme à chaque fois.
Et Isabelle Brockman.
Des éditions Tana, donc. Je vais mettre le lien, comme d'habitude, si vous souhaitez tout de suite acquérir ce livre ou le réserver dans une librairie à côté de chez vous. Je vais vous mettre le lien direct, donc vous arriverez sur la page du livre. Et ensuite, vous choisissez la librairie voilà, où vous souhaitez commander, ou si c'est proche de chez vous, vous pouvez vous y rendre vous-même. Ça fait toujours du bien de passer dans une bonne librairie. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Doriac, pour tout votre parcours, pour le temps que vous nous avez consacré, pour toutes ces explications, pour ce très beau livre et pour vos combats et le fait d'être toujours résistante.
Merci, Anne. Au revoir.
Au revoir. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, à tout de suite.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.